Alors, à l'époque, évidemment, les entreprises que je regardais pour acheter, c'était pas 200 millions, hein, vous comprenez bien, c'était complètement d'une autre taille, tu sais, beaucoup plus petit. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas celle que je connais le mieux? Et alors, j'ai parlé à un conseiller qui m'a dit, Charles, c'est complètement fou. Mais finalement, j'ai dit, c'est-tu quoi? Je pense que je peux le faire. Puis finalement, ben, c'est comme ça, j'ai structuré mon affaire. J'ai parlé à une couple de mes partenaires en France, notamment là-dessus, mais mon directeur général, puis une couple d'autres gars. Puis là, on s'est dit, regarde, on y va de l'avant. Je me suis trouvé des conseillers financiers, un conseiller, un avocat, puis on a monté la transaction. Puis finalement, on a déposé une offre. Puis on a fait à travers un processus, puis on a privatisé cette partie-là d'Atrium.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 192e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de débuter l'année en force, rendez-vous www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé pour les mois à venir. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. J'ai un privilège énorme avec le podcast de rencontrer les plus grandes femmes et hommes d'affaires du Québec, et ce, depuis plusieurs années maintenant. Par contre, il me manquait toujours un invité qui n'était pas passé sur notre balado, avec qui je voulais avoir une profonde conversation. J'ai donc l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec Charles Boulanger, président de LedArtech, une entreprise qui est en train de révolutionner le milieu automobile avec ses applications technologiques. Charles, qui est derrière également plusieurs grandes entreprises ayant généré des centaines de millions de dollars, nous explique en profondeur l'étendue de sa carrière jusqu'à nous présenter, selon ses dires, un projet de retraite raté avec LedArtech. C'est un des entretiens les plus fascinants que j'ai eu la chance de faire durant les 6 derniers mois. Soyez prêts, ça commence maintenant. Par contre, vu que l'entretien était de plus d'une heure, on a décidé de le couper en deux. Sans plus attendre, ma discussion avec Charles Boulanger. Monsieur Charles Boulanger, vous êtes le président de l'entreprise LedArtech, une organisation technologique spécialisée dans le domaine automobile. La société qui a levé près de 350 millions de dollars depuis sa fondation a pour mission d'améliorer la sécurité automobile des gens grâce à ses logiciels de pointe. Monsieur Boulanger, merci infiniment d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Bienvenue.
Monsieur Boulanger, avant de parler de croissance aujourd'hui, également de votre carrière qui est assez fascinante d'ailleurs, est-ce possible pour vous de nous expliquer un petit peu plus en détail ce que fait LedArtech?
Oui, en fait, LedArtech, aujourd'hui, on commercialise un logiciel qui essentiellement prend les données de l'ensemble des capteurs qu'on va retrouver sur les véhicules, en fait, qui se retrouvent déjà sur les véhicules, mais beaucoup sur les véhicules qui s'en viennent, surtout. Alors, le nombre de capteurs augmente beaucoup, et des capteurs de différents types. Les gens sont familiers avec des radars, des sonars, viennent maintenant des lidars, le GPS, des centrales inertielles, toutes sortes de types de capteurs, température aussi. Alors, nous, on prend les données de ces capteurs-là et on a le logiciel qui intègre les signaux bruts et qui reconstruit l'environnement en temps réel. Alors, ce qui est assez unique dans ce qu'on fait, en fait, on nous dit qu'on est seul au monde à faire ça aujourd'hui de façon commerciale, c'est que au lieu de façon traditionnelle de fusionner les signaux des différents capteurs, c'est que chaque capteur a son intelligence artificielle à lui qui identifie des objets, les classifie, et ensuite on fusionne les objets et on reconstruit l'environnement à partir de cette fusion d'objets-là. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les signaux bruts de chacun des capteurs et on fusionne les signaux. On construit donc ce qu'on appelle un environnement abstrait, si vous voulez, qui est en temps réel, hein, 30, 20, 30, 40 fois seconde. Et ensuite, notre neurone net est entraîné sur cet environnement abstrait-là. Et de là, on déduit les actions à prendre. Alors, c'est ce qu'on commercialise, donc c'est ce qu'on appelle un middleware. J'ai pas la traduction vraiment française de middleware, mais c'est un middleware dans toute la stack là, de software des automobiles. Donc c'est vraiment ce qui est intelligent. Alors donc ce qui est particulier, c'est que ça vient disloquer le développement software du développement hardware. Et chacun peut utiliser. Donc, ça permet de pouvoir interchanger les divers capteurs en arrière, puisque le réseau de neurones ne voit pas nécessairement les capteurs, voit plutôt un environnement reconstruit, si vous voulez, un environnement abstrait. Alors, c'est extrêmement puissant comme ce que ça apporte à l'industrie.
Et puis, Charles, avant de diriger le Daltech, vous avez œuvré dans le domaine des affaires depuis quand même un bon bout de temps déjà. Vous êtes dans 3 fonds d'investissement. Vous avez eu plusieurs entreprises par le passé que vous avez vendues également, que j'ai été capable de voir. Et on va parler un petit peu plus tard de le Daltech, mais avant d'y arriver, est-ce que ça serait possible également de nous ramener au début de ta carrière professionnelle et nous dire, ça a été quoi ta première expérience en affaires?
Ben, écoutez, assez tôt, moi, je suis gradué en génie mécanique de l'Université Laval, mais j'ai toujours eu un intérêt. Mon père est en affaires, donc ça a probablement influencé, je vous dirais, sans que je le sache vraiment, mais j'ai toujours un certain intérêt à brasser des choses. On avait déjà parti un club d'investissement à l'université. J'ai été impliqué dans plusieurs actions à l'université. J'avais toujours été impliqué dans l'organisation, que ce soit les conseils, l'organisation des choses de fin d'année. Donc, j'ai toujours été assez actif dans ce genre de choses-là. Et j'ai toujours eu une espèce de sensibilité, bien que j'étais en génie, à faire marcher les choses. Donc, c'était un peu pour ça que je suis allé en génie, parce qu'honnêtement, j'avais une certaine facilité. J'avais hésité entre les arts et le génie. Et étant donné que dans les arts, il y avait des travaux longs. J'étais jeune, puis que j'avais pas le temps parce que j'étais sur l'équipe de badminton, j'étais sur l'équipe de ski, alors j'avais trop d'activités qui nuisaient à mes études à l'époque. Alors, donc j'ai toujours été assez actif là pour, j'ai toujours un certain intérêt de ce côté-là. Alors du moment que même avec ma carrière en génie, assez rapidement, on m'a offert des postes qui allaient plus vers la gestion, le développement, la gestion vraiment, montage d'affaires, acquisitions, ce genre de choses-là. Là. Assez rapidement, on m'a orienté vers ça. Alors, puis j'ai eu des patrons qui m'ont fait confiance. J'en ai eu des plus difficiles, honnêtement, à qui je me suis pas entendu parce que, évidemment, on dit que j'ai un assez bon caractère, que je défends mes idées. Alors, j'étais un intrapreneur, c'est comme ça qu'on m'appelait. Là, les 11 premières années de ma carrière, j'ai été chez Shell et c'est un peu comme ça qu'on m'appelait à l'intérieur. Là.
Et spécifiquement chez Shell, quels ont été vos différents rôles?
Oh, j'ai commencé même avant chez BP, en fait, dans l'industrie pétrolière, dans les forages de puits. À l'époque, c'était toutes les nouvelles techniques de forage. À l'époque, ensuite, j'ai commencé à la raffinerie de Shell à Montréal, qui existe plus aujourd'hui, comme ingénieur là, de différents stades. Et puis ensuite, on m'a offert un poste, ce qui était complètement nouveau à l'époque. On était deux à nous offrir au moment d'une transformation dans les années 80. Alors ça, je traduis mon âge un peu ici, mais on m'a offert de transférer dans la division du marketing au centre-ville de Montréal à ce moment-là. Alors, j'ai été obligé de m'acheter un veston et une cravate, ce que j'avais pas à l'époque. Et puis, m'en aller vers le centre-ville. Et puis, c'est là que j'ai été aussi exposé beaucoup plus à tous les autres aspects d'affaires. Parce qu'en génie, malheureusement, on peut pas tout enseigner aux étudiants en génie, mais je crois qu'il y a quelques lacunes sur plus la partie affaires ou la partie sociale du rôle de l'ingénieur. D'ailleurs, moi, j'ai fait des conférences à la faculté de génie ici sur le rôle social de l'ingénieur, là, un peu, à faire arriver des choses, parce qu'on a une capacité à faire arriver des choses, pas à comprendre des choses. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un rôle social important pour l'ingénieur dans une société. T'sais, si on s'en va dans la brousse, puis on part un groupe de personnes dans la brousse, ben, moi, je pense après un ingénieur dans la gang.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qualités sur la planète, mais ça en est une que je pense que là. Et ces personnes-là qui ont ce savoir-là et qui ont été entraînées de faire ça, je pense qu'ils ont un certain devoir de remplir ce rôle social-là. Alors, donc ça m'a amené chez Shell à faire donc une progression. On m'a offert donc de suivre, par exemple, on m'a inscrit à ce qu'on appelait à l'époque un Crash MBA, là, donc un MBA Crash qui était aux frais de la Dartec, qui a aussi transformé. J'étais le plus jeune dans le programme à l'époque. C'était un programme qui était uniquement sur recommandation des grandes sociétés. Donc, il fallait être recommandé par son entreprise pour y aller. C'était assez intense. Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, ouvert les yeux, ouvert les horizons, compris. Donc, ça m'a donné beaucoup de perspectives sur les affaires. Puis après, chez Shell, on m'avait offert divers postes. Puis, je voulais pas aller à Calgary. Donc, on m'offrait d'aller à Calgary au siège social. Et c'est là que j'ai décidé de quitter puis de finalement partir une entreprise dans le domaine de l'environnement, la restauration de sites contaminés.
Quelle a été votre première organisation, M. Blanger? Parce qu'on dirait que je faisais mes recherches sur vos CV et j'ai vu beaucoup d'expériences, mais on dirait peut-être que la première partie de votre carrière, on ne la retrouvait pas exactement dans votre curriculum, la partie chez Shell, tout ça.
C'est parce qu'écoutez, j'ai fait pas mal de choses, puis tout ça, ça date d'il y a 40 ans, le passé. J'ai gradué en 1981, alors je les traîne plus. Là, essentiellement, ce qui est le plus important, c'est les 20 ou 15 dernières années, je vous dirais. Là. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai été chez Atrium et tout ça. Là. Alors, même ProLab à un moment donné comme mon premier IPO. Là. Alors, même ça, je le traîne plus, hein, parce qu'on a fait, j'ai fait deux IPO, mais... Vous savez, il arrive un moment donné, il faut tout mettre ça en perspective, là, ça devient trop
mais
long.
C'est totalement fascinant. C'est votre première, parce que deux IPO, écoutez, faut prendre un pas de recul ici, c'est extraordinaire. Là. Deux IPO, vous avez eu la chance de participer, vous avez fondé des entreprises et on va en revenir. Première expérience en tant qu'entrepreneuriat, quelle a été l'organisation?
Écosite, dans la réhabilitation de sites contaminés.
Quelle année à peu près pour nous situer?
91, 92, 93, dans ce coin-là, 93 peut-être.
Et parlez-moi un petit peu de l'idée, de l'idéation derrière cette organisation-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là, au début des années 90, de vous dire « je veux me lancer »
Ben, c'était assez avant-gardiste à l'époque. On savait qu'il y avait des sites contaminés. J'avais été dans l'industrie pétrolière. Et donc, il y avait effectivement beaucoup de sites contaminés à réhabiliter. On savait que c'était un problème. Il y avait peu de technologie qui répondait à ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti. Puis, je me suis associé à des gens. Puis, on a parti, d'ailleurs, on m'avait approché pour devenir le CEO de cette boîte-là. Donc, c'était pas juste moi qui fondais ça. Donc, on a monté ça à plusieurs personnes. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé.
Puis, ça a été lancé au début des années 90. Quelle a été l'évolution de l'organisation? Parce que je pense qu'au final, vous l'avez vendu, l'entreprise.
Ouais, ben, c'est là que j'ai fait mes premiers développements internationaux. C'était là. C'est pas vrai. J'avais monté une business au Vietnam avant, là, mais ça, j'en parle pas non plus. Mais, ça, c'est une autre chose. Ça, c'était avant la levée de l'embargo, avant même la levée de l'embargo. Il faut savoir qu'il y avait un embargo là, qui avait été mondial, qui avait été établi au Vietnam. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de faire des choses là-bas. On n'avait même pas d'ambassade à l'époque. Et donc, mes vraies expériences, là, c'est-à-dire sur une base continue. Bah, c'est pas vrai, Vietnam, c'était les premières, mais en tout cas, pour ce qui est des COSIT, on a développé un partenariat, on a créé un joint venture avec une société française qui a très, très bien été, qui a fait développer la société, qu'on est devenu donc très impliqué, notamment en France. Donc, ça a développé. Puis après, ben, la société a cru. Et puis, cette société-là a été vendue à une société qui a fait de l'agglomération de plusieurs entreprises. Et moi, j'ai continué dans d'autres choses après.
Vous avez continué dans d'autres choses. Et là, je pense que ça nous amène tranquillement aux alentours de votre expérience chez Atrium que vous nous parliez un petit peu plus tôt. Début des années 2000, vous avez œuvré pendant plusieurs années, je pense, chez Atrium.
Oui, exact. Atrium, plusieurs années comme président de la division ingrédients actifs et spécialités chimiques dans le domaine beaucoup des biotechnologies, des biotech, en fait. Et donc ça, c'était une très, très belle... expérience aussi, beaucoup à l'international. On a fait plusieurs acquisitions qui étaient un peu à l'international, notamment donc quelques-unes en France, notamment qui nous a permis de devenir le premier fournisseur d'ingrédients à l'industrie cosmétique française, notamment. Donc, Chanel dépendait plus de nous que nous dépendions de Chanel, par exemple. Juste pour vous donner une idée. On représentait un chiffre d'affaires plus important c'est-à-dire leur chiffre d'affaires représentait un pourcentage moins important de mes ventes que moi, ce que je leur fournissais représentait de tout ce qu'ils achetaient. Alors, pour vous donner une idée. Alors, on a vraiment fait un beau succès de cette société-là. Et
on est venu vous chercher ici. On est venu vous chercher comme président.
Oui, parce qu'entre-temps, avec un groupe d'entrepreneurs, à l'époque, on m'avait approché aussi pour... que je devienne le premier président d'une nouvelle société de développement économique pour la région de Québec, parce que la région de Québec avait toutes sortes d'enjeux de développement économique à l'époque. Et là, on remonte à 2000, j'essaie de me rappeler dans les années de 2002-2003, vous me faites travailler pas mal sur les années. Puis c'est rare que je remonte aussi loin que ça, d'ailleurs. Et donc, il y avait un besoin de vraiment structurer le développement économique. Le maire de Québec, à l'époque, Jean-Paul Lallier, voulait pousser ça. Et puis... moi, à ce moment-là, j'ai accepté de prendre un mandat d'une couple d'années pour mettre en place cette organisation de développement économique-là, qui s'est appelée Pôle Québec-Chaudière-Appalaches, qui est devenu Québec international de maintenant. Et on a fusionné 5 organismes de développement économique et puis on a recréé une nouvelle stratégie avec le support notamment de la ville, du gouvernement provincial puis du gouvernement fédéral. Donc, ça, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai fait une couple d'années là. Et donc, ensuite, c'est Adrien, effectivement, qui est venu me chercher pour le poste de président. Et puis, c'est Luc Dupont qui était là à l'époque. Et puis, avec Richard Bordelot, Luc et moi, ben, on a fait croître pas mal, passablement cette société-là. Et puis, en
2008-2009 à peu près dans ces eaux-là?
2008. Alors, j'ai fait une offre pour racheter ma division et pour la privatiser parce qu'on avait amené la compagnie publique à l'époque. On avait amené la compagnie publique en 2004 ou 2005, peut-être 2005. À peu près. Et donc, moi, j'ai levé essentiellement 200 millions en Europe pour acheter la société et la privatiser.
Et est-ce que et quelle est devenue cette société?
Cette société-là est devenue Unipex. Okay. À l'époque, on a devenu, exactement, on a appelé Unipex. Il y avait 3 divisions à l'intérieur d'Unipex, donc, dont une était basée à Québec et 2 autres à l'étranger.
Ah, puis c'est ça, on discutait un petit peu avant le podcast. On a de la famille qui a travaillé un petit peu sur notre image de marque à l'époque. Donc ça, c'est assez drôle. Et parlez-nous d'Unipex, parce que bon, c'est assez exceptionnel. Vous prenez Atrium, vous amenez l'organisation publique. Et c'est quoi le constat? Qu'est-ce qui vous a dit, qui vous a poussé à vous dire, je vais ramener une partie de cette organisation-là au niveau privé? Qu'est-ce qui vous poussait à ce moment-là à faire cette réflexion-là, au lieu peut-être d'aller lancer littéralement une autre organisation?
Écoutez, j'ai commencé par penser à lancer une autre organisation et même à acheter d'autres entreprises. Et puis, à l'époque, j'avais regardé, d'ailleurs, j'avais demandé à des relations que j'ai dans le domaine des firmes comptables et tout ça, de regarder qui font des transactions d'acquisition et de vente d'entreprises, de regarder des entreprises. J'en ai regardé plusieurs, d'ailleurs, j'ai regardé plusieurs entreprises à acquérir à l'époque. Et puis, à force du temps, je faisais des vérifications diligentes là, dans ces entreprises-là, je regardais pour structurer des transactions, je me suis dit, ben l'entreprise que je connais le plus, puis dans laquelle il y a un beau potentiel, c'est la division que je dirige.
Bien sûr.
Ben, à l'époque, on avait changé de président à l'époque, ça c'est toute une histoire, mais et puis on était rendu public, puis il y avait des intérêts, puis on voulait modifier Atrium pour devenir vraiment une entreprise entièrement dédiée aux soins plus vers les soins, les suppléments nutritionnels. Alors donc finalement, j'avais déjà là, l'idée, c'était possiblement de vendre la division. Alors je me suis dit, ben celle que je connais le mieux, c'est celle-là. Alors à l'époque, évidemment, les entreprises que je regardais pour acheter, c'était pas 200 millions, là, vous comprenez bien, c'était complètement d'une autre taille, beaucoup plus petit. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas celle que je connais le mieux. Et alors j'ai parlé à un conseiller qui m'a dit, Charles, c'est complètement fou. Mais finalement, j'ai dit ça, c'est-tu quoi, je pense que je peux le faire. Puis finalement, ben c'est comme ça, j'ai structuré mon affaire. J'ai parlé à une couple de mes partenaires en France, notamment là-dessus, mais mon directeur général, puis une couple d'autres gars. Puis là, on s'est dit, regarde, on y va de l'avant. Je me suis trouvé des conseillers financiers, un conseiller, un avocat, puis on a monté la transaction. Puis finalement, on a déposé une offre. Puis on a fait à travers un processus, puis on a privatisé cette partie-là d'Atrium à l'époque.
Donc, 200 millions pour...
Avec des fonds français, puis un pool de banques européennes. Donc, on a entièrement fait structurer la transaction en Europe. Donc, le siège social, après la transaction, légalement, était à Paris. Donc, moi, mon bureau officiel était à Paris. Mais je gérais avec mon équipe de direction de la ville de Québec.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et bon, vous reprenez l'organisation et je pense que vous faites environ 3 ans avec Unipec, si je ne me trompe pas, 2008, de, peut-être 3-4 ans, de 2008 à 2011 dans ces eaux-là.
12, ouais.
Et au final, l'organisation a été achetée, si je ne me trompe pas, par Barron's.
Un fonds.
Et comment tout ça s'est mis en place? Comment ces années-là, peut-être, si vous pouvez nous ramener, nous dire qu'est-ce qui vous a amené à acheter, à j'imagine grandir, vous connaissant, vous écoutant parler, et par la suite à vendre?
Ben, vous savez, des fonds d'investissement, c'est toujours des choses qu'il faut vendre. Hein? C'est toujours des choses qui sont temporaires. La vie est faite aussi où des fois, il y a des désalignements avec ces actionnaires-là et tout ça. Donc, des fois, la meilleure solution, c'est de vendre, c'est de passer à une autre étape et de refaire d'autres choses. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ces fonds d'investissement-là rentrent pour 5 ans maximum. Ils sont entrés au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Déjà, ils commencent à mettre de la pression pour avoir une sortie. Donc, c'est un rythme assez effréné. Là. C'est pas fait pour les cœurs tendres, ce genre de transaction-là. Et puis, d'entrer des gens de ce qu'on appelle du private equity. Là. Alors, c'est ça. Il faut être capable de bouger vite puis d'être capable de faire des transactions puis de passer à autre chose.
C'est parti. Assez fascinant. Tout ça est bon. Transaction qui se termine 2011-2012. Et là, on vous voit dans plusieurs fonds d'investissement. Je pense que vous êtes également très impliqué au niveau de Ange Québec. Vous l'êtes d'ailleurs, je pense, peut-être même encore un peu aujourd'hui.
Je suis plus membre officiellement. Je suis encore, en fait, dans des placements que j'ai faits à l'époque. Mais je crois que j'ai arrêté d'être membre depuis 2 ans. En fait, par manque de temps, j'ai continué avec pendant plusieurs ans, mais ça prend du temps pour être un ange. Alors, j'avais vraiment plus le temps.
J'imagine. Et avant de parler de LeaderTech qui a commencé aux alentours de 2013 et qui s'est vraiment matérialisé comme un emploi à temps plein, on pourrait dire ça, à partir de 2015, qu'est-ce que vous avez fait peut-être en 2011 et 2013, 2014? Est-ce que vous parrainiez peut-être certaines organisations? Quel était votre travail?
Ouais. En fait, à l'époque, j'étais, pendant de 2012-14, j'étais essentiellement sur des conseils d'administration, je faisais de l'investissement, j'avais dans les 3 fonds dans lesquels j'étais. Alors, c'était les principales activités que j'avais. J'ai aidé quelques entreprises à l'époque, donc à faire des transactions, des choses comme ça. Et puis LeaderTech, assez rapidement, quand j'ai commencé avec LeaderTech, c'était un engagement là, dès le départ de 3 jours/semaine pour 3 mois. Donc, ça a déjà pris un certain temps. J'avais regardé aussi à l'époque, on avait commencé à travailler, Richard Bordelot et moi, qui est un bon ami, là, qui était chez Atrium, pour monter un fonds d'investissement. Donc, on a travaillé un peu sur ça. Et puis, bon, LeaderTech est devenu trop prenant pour moi. On m'a demandé d'être là à plein temps à partir d'un certain temps.
Mais parlons-en un peu de LeaderTech, parce qu'on a eu la chance de discuter, vous et moi, ce matin, et c'est assez drôle ce que vous m'avez dit. Vous rentrez dans l'organisation en 2013, et dans la manière que vous nous expliquez, que tu m'expliquais ça, ça a été un peu un plan de retraite raté.
Ben, totalement, en fait.
Totalement raté, OK.
Ben oui, mon épouse, là, le plan, c'était pas de retourner dans de la gestion d'entreprise à plein temps. C'était plus de gérer les investissements, de faire des conseils d'administration, avoir des placements. Déjà ça, c'est un travail à plein temps, juste être derrière des fonds d'investissement. Une chance qu'il y ait des fonds d'investissement parce que ça aide on n'est pas obligé de le gérer en direct, mais juste directement, j'avais au moins 15 d'investissements dans diverses entreprises. En plus des 3 fonds d'investissement. Donc, ça prend un cahier à maison là, pour tout gérer ça. Là. Il y a toujours des choses. Ça prend. Ils ont chacun leur livre là, dans le classeur. Là. Donc c'est juste ça en passant, ça prend du temps. Puis ben, il y avait diverses activités. Alors, j'aime la pêche, j'aime sortir d'affaires. Alors, ça aussi, ça prend du temps. Alors, mais LeaderTech assez rapidement est venu à prendre du temps. Puis bon, moi et mon épouse, j'étais rendu à une étape de ma vie. On était chanceux, on était bien, puis on peut toujours faire plus d'argent dans la vie, là, évidemment, mais bon, il était correct. Alors, c'était pas vraiment l'objectif, c'était pas de faire plus d'argent. Là. Alors, c'était vraiment d'aider des entreprises pour pouvoir les relancer. C'est ça que j'ai fait avec le Dartec, mais c'était pas le but de recommencer à plein temps, là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un plan de retraite manqué, là. C'était vraiment pas ça, là.
Et parlez-nous un petit peu, parce que là, je pense que c'est ça qui va vraiment intéresser notre audience ici aujourd'hui. Donc, si on fait des recherches en ligne, on est capable de voir que le Dartec a été fondé en 2007. Une organisation qui a grandi, mais qui rapidement a pas tellement grandi à la vitesse espérée, je pense bien. Peut-être même que je pense qu'au moment que vous arrivez, l'organisation, c'est peut-être quoi, une dizaine de personnes dans l'organisation?
Une
vision qui est peut-être pas excessivement claire, un produit qui est peut-être pas sensiblement non plus adapté sur le marché. Est-ce que vous êtes capable de nous dire c'est quoi le diagnostic que vous faites de l'organisation à l'époque quand vous l'intégrez? Parce que ce qu'il y en est aujourd'hui, je pense qu'on est à deux univers totalement opposés, là.
Oui, oui. Écoutez, c'est un... le Dartec, c'est un... C'est une jeune pousse de l'INO, hein. En fait, on a un spin-off en anglais. Alors, c'est une jeune pousse de l'INO qui était toujours d'ailleurs dans les locaux de l'INO. Donc, les trois fondateurs ont fait un très bon travail d'amener la technologie. Et moi, ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé, c'était vraiment qu'il y avait une technologie extrêmement intéressante, qui était très prometteuse, puis qu'il y avait de la place dans un marché qui est en pleine transformation, qui était le marché de l'automobile ou de toute la mobilité. On parle souvent de l'automobile, mais c'est vraiment tout le secteur de la mobilité des personnes et des biens qui doit changer, là. Question d'empreinte, question de sécurité, question de en fait, il se tue encore trop de gens sur les routes, là. Alors, et donc, tous ces enjeux-là m'interpellaient beaucoup. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis je trouvais que l'entreprise avait vraiment quelque chose d'intéressant à développer. Alors, ça a été ça au départ. Et assez rapidement, ben, j'ai fait comme j'ai toujours fait dans toutes les entreprises. Moi, j'ai toujours été un adepte de la planification stratégique, de poser des questions. Enfin, il y a un de mes amis, d'ailleurs, qui est toujours, en fait, aujourd'hui, le président, le directeur général de ce qu'on appelle Lucas Meyer, qui est la compagnie qui a ultimement acheté Unipex, des ingrédients actifs d'Unipex, et qui dit, tu fais la méthode Boulanger. Je le regarde, me demande, qu'est-ce que tu veux dire, là, la méthode Boulanger? Il dit, tu fais toujours la même chose. J'ai dit, sais-tu, c'est vrai. Alors, j'avais jamais réalisé que, malgré moi, bon, on rentre, pose des questions, on fait un diagnostic, puis on regarde les ficelles à tirer, puis finalement, tu te rends compte que là, je tombais dans le domaine de la microélectronique, de l'électronique, et du software, secteur dans lequel j'avais jamais été de ma vie, mais il s'agit de poser des questions puis de comprendre. Évidemment, d'avoir un background en génie, c'est évidemment, ça aide pas mal, mais pour mener une affaire, c'est bon, ben comment on va aller chercher des clients, comment le produit se positionne. Et moi, j'ai toujours dit, mais d'ailleurs aux jeunes ingénieurs qui voulaient monter des entreprises, commencez pas par développer le produit, commencez par voir le besoin du marché. Ensuite, vous développez un produit. Puis ensuite, développer un modèle d'affaires. Puis le produit, c'est la dernière affaire. C'est le produit de toute la réflexion avant. Non, l'inverse. Alors, donc j'ai entrepris cette démarche-là chez Dartec. C'est comme ça qu'on a un peu transformé l'entreprise puis modifié le modèle d'affaires pour monter une plateforme autour de la technologie centrale plutôt que commencer à faire des capteurs dans tous les divers verticaux là, dans lesquels l'entreprise est impliquée à cette époque-là. Et donc, ça a impliqué de lever des fonds, de commencer à faire une levée de fonds. Alors là, ça, on a commencé. On a levé 2 millions. Puis après ça, on a levé 7 millions. Et ça a monté comme ça.
Parce que c'est ça qu'on parlait un petit peu. Vous arrivez, puis gérer une organisation, dizaine, vingtaine d'employés, puis avoir une petite croissance organique année après année, je pense pas que ça vous plaît tellement. Là. C'est pas cette catégorie d'entreprise-là qui vous, a, ouais, qui vous donne non, envie de gérer. Là.
Non, vous touchez un sujet intéressant. D'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs années une personne de Montréal qui est un consultant en planification stratégique, puis qui est devenu un ami au fil des années, puis qui me disait, Charles, mais qu'est-ce que tu fais ici chez le Dartec? Dans le fond, au début, il m'avait dit ça parce que j'avais demandé de me revoir des choses. Et puis, ça fait aussi part de ce que j'avais dit aux actionnaires après, au bout de 3 mois, lorsque je leur ai présenté les options. Je leur ai donné 3 options. J'ai dit, vous pouvez fermer, auquel cas, je peux vous aider. Une fermeture organisée à liquider des actifs, c'est une option. La deuxième option, c'est vous pouvez continuer comme vous êtes là, mais au mieux, ça va faire une entreprise, ça va faire 8 à 10 millions de chiffre d'affaires, va dégager peut-être 1 million d'EBITDA, puis aller avoir quelque chose. Mais j'ai dit, il n'y aura pas de retour pour les actionnaires. L'entreprise, puisqu'elle a amené du capital externe, il faut donner un rendement à ce capital externe-là. Fait que si c'est une entreprise, c'est deux personnes qui sont propriétaires de ça, ben, puis que tu fais 1 million de profit, ben, ça peut être une très belle entreprise pour des entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle les lifestyle business, là, puis ça peut être très bien. Mais à partir du moment où tu as des actionnaires qui demandent du rendement, puis tout ça, ben là, tu es dans une autre dynamique. Alors, j'ai dit, puis ça, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Je leur ai dit carrément. Puis j'ai dit, la troisième option, c'est moi, je pense qu'il y a une belle technologie, je pense qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas où on va amener ça, mais j'ai dit, moi, ce que je vais vous dire, c'est vous mettez 3 millions, on va sortir de la machette, on va sortir de l'autoroute qui va nulle part, puis on va embarquer dans la jungle, puis on va se trouver une trail, puis on va voir où est-ce que ça va. Ça coûte 3 millions, en fait. Alors, c'est un peu ça, là, tu sais. Alors, c'est parti d'une idée qui était assez large, que je voyais un besoin. Mais j'ai dit, écoutez, entre où ce qu'on est puis où il faut aller, il y a un immense chemin, puis tout n'est pas tracé d'avance, puis ça va prendre une couple d'années là, avant de voir clair. Alors, c'est un peu comme ça que c'est parti. Puis je leur ai dit, mot pour mot, je me rappelle encore au conseil, parce qu'il y avait plusieurs... En fait, le conseil était principalement constitué des investisseurs. Ben, j'ai dit, écoutez, avant, vous voulez que je sois à plein temps là, comme acting CEO, parce que là, j'étais toujours consultant. J'étais pas, je voulais pas nécessairement m'engager parce que j'avais promis à mon épouse de pas le faire. Alors, j'étais toujours consultant 4 jours. J'étais à 4 jours. Après, je suis passé à 4 jours peut-être à ce moment-là, avant de passer à plein temps. Et puis, je suis resté à 4 jours jusqu'à temps que je prenne en 2015 officiellement là, le poste. Donc, je leur ai spécifiquement dit, je dis, êtes-vous bien sûr que vous voulez m'avoir là, comme CEO? T'sais? Parce que, vous savez, moi, ça m'intéresse. Je vais prendre un niveau de risque que vous êtes peut-être pas prêt à prendre.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ça m'intéresse pas. Ils ont dit, ouais, on est conscient de ça. Mais je dis, non, êtes-vous bien sûr? Parce que moi, je vais pour le I hit for the fence, comme disent les Américains. Ouais. Alors, je vais peut-être passer dans le beurre 3-4 fois, là, avant de l'accrocher comme faut et de l'envoyer dans les estrades. Alors, c'était ça l'idée. Puis j'ai dit, parce que moi, ça m'intéresse pas, là, juste de monter l'entreprise, ça va te mettre à 18-10 millions. Là,
et je vous pose une question, M. Boulanger, puis on va en venir par la suite aux autres périodes d'investissement que vous avez faites qui sont un petit peu plus agressives. Question profonde, pour quelle raison ça ne vous intéresse pas des entreprises comme ça? Et pour quelle raison l'entreprise à haut risque, à haut capital vous intéresse davantage?
Ben, écoutez, évidemment, j'étais déjà rendu à 50 ans, j'avais déjà fait plus que ça, j'avais déjà 55 ans, j'avais déjà fait de l'argent suffisamment pour avoir une très, très, très bonne retraite, très agréable et voyager et faire tout ça, même faire du placement. J'étais déjà derrière Falec. Juste gérer, ça devait prendre une certaine partie de mon temps déjà. Là. Alors, l'idée, c'était de dire, ben, j'irais, pourquoi faire encore une autre affaire comme j'en ai déjà fait? On n'est plus là, tu sais, j'étais rendu une autre étape de ma vie, essentiellement. Tu sais. Alors, essayer un home run, ça peut être la fun, mais c'est pas ça. Je vois pas pourquoi on l'essayerait.
Là, je comprends. Puis vous levez 3 millions avec les investisseurs à l'époque. Ils acceptent. On est à 350 millions aujourd'hui, incluant la dette. Là, bon, il y a eu des étapes entre-temps. Est-ce que vous êtes capable quand même de nous segmenter un peu ces différents piliers de croissance-là entre le « oui, on le fait, Monsieur Boulanger, on vous donne les clés de la maison, let's go, on va en avant ». Et là, par la suite, bien entendu, on veut développer une technologie mondiale. On a besoin des plus grands talents au monde. On a besoin d'investissements. Vous avez levé de l'argent. Comment tout ça s'est mis en place?
Ouais, ben c'est un travail de longue haleine. C'est un travail par étape. Hein. Comme j'ai déjà expliqué à quelqu'un, c'est pour un entrepreneur, moi-même, quand je regarde avec les gens avec qui j'investis, je leur explique, la vision, là, c'est comme traverser une rivière. Là. La vision, c'est l'autre côté de la rivière, mettons, c'est la belle nature, le beau champ, ou je ne sais pas trop quoi qu'il y a de l'autre bord de la rivière qu'on va avoir. Et puis, j'explique aux gens, ben si la rivière elle a 1 mètre de large, je peux reprendre, te donner un grand swing, puis traverser d'un saut. Mais quand la rivière a fait, disons, 100 mètres de large, ben, il faut que tu regardes, tu te fasses un plan. Okay? La vision, c'est où je vais aller, puis après ça, c'est comment tu exécutes ça. Et ça veut dire peut-être prendre, puis mettre, tu regardes où les pierres sont dans la rivière, puis il faut que tu sautes de pierre en pierre. Puis à un moment donné, si les pierres sont pas là, il faut que tu les prennes de la rive, puis tu ailles les mettre dans la rivière, une à une. Puis là, tu fais un saut, tu fais un autre saut, tu mets les pierres. Puis la face, puis c'est pas toujours une ligne droite, la façon dont il faut que tu mettes les pierres. Des fois, c'est un peu de travers. Puis parce que juste se donner un grand swing, ça marche pas. Il faut que tu alors. Gérer une entreprise, c'est exactement ça. Il faut que tu ailles mettre des pierres dans la rivière, une à une. Fait que premier financement, deuxième financement, troisième financement. Et à ça, avec chacun de ces financements-là, il y a des objectifs ou des jalons qu'on doit franchir. Soit des jalons clients, soit des jalons de produits de développement de produits, soit des jalons d'expertise. Alors, il y a divers types de jalons d'organisation qu'on doit franchir pour pouvoir amener les investisseurs à une autre étape. Et souvent, on change de type d'investisseur. Lorsqu'on avance à une autre étape. Alors, on va aller avec des investisseurs de plus ce qu'on appelle early stage, là, donc plus tôt dans à suivre des investisseurs de croissance, plus grande croissance. Et là, on voit des investisseurs qui mettent des fonds plus importants et qui sont plus sophistiqués aussi, règle générale. Alors, donc ça implique des financements plus complexes aussi rendus là, règle générale. Alors, mais tout ça se fait par étapes.
Puis c'est là que j'aimerais savoir. Donc, on reprend l'analogie de la rivière, on place des pierres pour finalement la traverser, cette rivière-là. Mais on le dit, les investisseurs du départ ne seront pas nécessairement les investisseurs de la fin qui vont investir des sommes plus importantes. Est-ce que vous, dans votre présentation aux investisseurs, à chacun des piliers, vous le dites clairement, parce que c'est le chiffre que vous m'aviez donné, on va avoir besoin de 500 millions de dollars pour faire le projet qu'on a de besoin. Est-ce que ça s'est dit dès le départ ou ça se matérialise à travers le temps?
Écoutez, ça fait un certain temps que je dis 500. Au départ, on ne sait pas trop. Hein? Au départ, bon, nous, on avait déjà fait le constat que on ne deviendra pas ce qu'on appelle un tier one, donc un équipementier dans le domaine de l'automobile, parce que ça, c'était irréaliste. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener l'entreprise à un point où elle va devenir suffisamment intéressante pour se faire acheter. Donc, on a eu déjà des tractations d'ailleurs les entreprises qui ont regardé pour nous acheter divers points dans le développement de la société. Donc, ça, oui, on a regardé. Mais assez rapidement, je vous dirais, depuis, 2015, là, je suis assez conscient que ça doit être de prendre de 300 à 500 millions là, pour lever l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas une société qui va nous acheter avant ou quelque chose comme ça. Mais il est clair que la Dartec, à un moment donné, va avoir besoin d'un grand frère. Parce que même avec cet argent-là, ça va prendre beaucoup de capitaux parce que c'est des industries qui sont intenses au niveau du capital. Alors, même si c'est du software, parce qu'il y a de l'expertise, il y a de la révision, il y a du upgrade constant. Donc, ça prend des entreprises où faut amasser beaucoup de capital. Ça nous prend des gens dans divers pays. Donc, ça devient des entreprises assez complexes. Et l'industrie automobile est aussi structurée où ça prend des garanties. Alors, ça prend des entreprises assez fortes, solidement, financièrement, et très solides, et qui sont capables de donner des garanties à très long terme. Alors, il faut garantir, par exemple, des produits, des composantes dans l'automobile 20 ans après qu'elles aient été retirées du marché. Pas tout le monde est capable de faire choses-là. Donc, vous en vendez plus depuis 20 ans, mais vous avez encore des garanties. Vous devez encore maintenir le stock et pouvoir en fournir pendant 20 ans. Donc, après que ça a été retiré du marché. Donc, il y a toutes sortes de contraintes dans l'industrie là, qui font que c'est fait pour des gros joueurs. Donc, et ça a fait que les Dartec, aujourd'hui, on est une société québécoise, mais en fait, on ne répond plus à la définition de sous contrôle canadien déjà.
Alors, à cause des investisseurs qui sont un petit peu partout dans le monde et qui doivent posséder un bon actionnariat de l'organisation. Là.
Exact. Le contrôle, évidemment, très canadien et très même québécois. Mais il y a une influence d'actionnaires d'un peu partout. On a un conseil d'administration qui est dominé par des administrateurs indépendants. On a mis donc très tôt, c'est une chose sur laquelle je me suis concentré parce que j'avais déjà vécu dans certaines de mes entreprises des histoires difficiles au niveau des actionnaires, de chicanes, puis de tensions, puis de chicanes de conseil. Alors, de mettre une gouvernance exemplaire au conseil et de m'assurer des choses que j'ai exigé beaucoup des investisseurs. Ça a été une bataille assez épique, même au début de la Dartec, de convaincre les investisseurs de mettre des administrateurs indépendants plutôt que des représentants des fonds d'investissement. Et c'est une grande, grande bataille qui finalement a fonctionné. Et puis, je pense que toute entreprise devrait essayer de faire ça. C'est assez important d'avoir des administrateurs qui ont avant tout l'intérêt de l'entreprise plutôt que l'intérêt des fonds d'investissement.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la première partie de mon entretien avec Charles Boulanger. Restez à l'affût parce que la deuxième partie arrive lundi prochain. Merci à tous et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.